Donc Nathalie Attrouillet a été journaliste pendant de nombreuses années et ancienne responsable de la communication du diocèse de Lyon. Elle a déjà publié près d'une dizaine d'ouvrages. Désormais en retrait du journalisme et de la vie professionnelle en raison d'une maladie invalidante et douloureuse, elle observe avec clairvoyance les mouvements internes du christianisme. François-Xavier de Boissonnier est le peintre le plus connu du monde catholique français.
Oui. On doit être trois.
Ses expositions rencontrent un large succès. Ses collaborations avec des auteurs reconnus comme Fabrice Adjadj, Jean-Pierre Denis, Martin Stephens ou encore Thibaut de Montaigu le placent comme un auteur à part entière.
Et Nathalie Attrouillet.
Oui. Ensemble, donc, Nathalie Attrouillet et François-Xavier de Boissonnier publient Mystère, qui offre au lecteur une plongée splendide dans les saints mystères et donne au rosaire un nouvel élan. Bonne conférence et bienvenue à tous deux.
Merci.
Bonjour à tous.
Parle bien dans le micro.
Il se trouve que Natalia m'a demandé de faire spécialement un tableau qu'elle tenait, c'était le couronnement de la Vierge. Et il se trouve que la définition même du rosaire, c'est de couronner la Vierge, la tête de la Vierge, avec des roses. Et donc, elle a souhaité que dans cette image, ça soit son fils qui, comme un collier de nouilles, offre une petite tresse de fleurs à sa maman, voilà, dans une image du quotidien, au lieu d'être une image un peu eschatologique du couronnement de la Vierge, comme on peut voir. Là, on a essayé de faire des images qui correspondent aux vivants des personnes que l'on cite et notamment que l'on prie à travers le rosaire.
Quand on vient au pèlerinage du rosaire, c'est qu'on a tous une histoire un petit peu particulière avec Marie ou avec ce drôle d'objet qui ressemble à un collier avec une petite croix au bout. Une histoire parfois un peu rocambolesque, parfois une histoire très traditionnelle qui s'est transmise de génération en génération, parfois une histoire qui s'est trouvée au coin d'une rue. Enfin, on a tous une histoire avec cet objet-là et avec Marie. Moi, mon histoire, elle est singulière et commune à la fois, comme la vôtre. Simplement, moi, je suis une femme de mots. Mon travail, c'est d'écrire. J'ai été journaliste, j'ai été communicante. Maintenant, je suis écrivain parce que c'est tout ce que je sais faire. Et donc, j'ai mis en mots cette histoire parce que la souffrance, c'est quelque chose qui est à la fois commun à toute l'humanité, on souffre tous, à des degrés divers, à des périodes diverses, dans sa chair, dans son psychisme, dans son âme. Mais le point commun qu'on a tous dans la souffrance, c'est que on ne peut pas partager cette souffrance. J'allais dire, il y a deux choses dans l'humanité qui sont commune à tout le monde, c'est l'amour et la souffrance. L'amour, par définition, ça se partage. La souffrance, par définition, ça ne se partage pas. Et pour parler de la souffrance, il fallait un langage qui s'y prête. Et le langage que j'ai trouvé, le seul langage que j'ai trouvé, c'est le langage de la poésie. Et pour que ce langage, pour que cette expérience puisse se partager, il fallait que j'écrive ce livre avec une autre voix, avec une autre main. C'est pour ça que j'ai demandé à François-Xavier de l'écrire avec moi et de l'écrire avec son langage à lui, qui est celui de la peinture. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé. Je suis atteinte, donc, alors, j'aime beaucoup, dans le livret du rosaire, on vous dit que je suis atteinte d'une maladie douloureuse et invalidante. Ça fait planer le mystère. En fait, on est très nombreux à l'avoir, cette maladie, 100 000 cas par an, ça s'appelle la sclérose en plaques. Vous êtes très déçu, je sais. Désolé. Voilà, j'ai été diagnostiquée il y a 8 ans. Je suis remarquablement soignée à Lyon, qui est un centre neuro extrêmement pointu. Il y a autant de maladies, de sclérose en plaques qu'il y a de malades de la sclérose en plaques, hein, puisque c'est une maladie qui touche le système nerveux et donc des nerfs, vous en avez partout. Donc les manifestations, les symptômes peuvent prendre des formes extrêmement différentes selon les personnes. Il y a des gens qui ont beaucoup de manifestations invisibles. Moi, j'en ai un certain nombre qui ne se voient pas, effectivement. Jusqu'à ce que vous me posiez une multiplication de têtes. Là, vous allez bien rigoler. Mais il y en a aussi qui se voient un peu plus. Il y en a une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle des neuropathies périphériques, qui sont extrêmement compliquées à soulager. Et il m'est arrivé par deux fois d'expérimenter des tunnels véritablement de douleur que je souhaite même pas à mon pire... Oh, quoique... Je réfléchirai à la question, mais enfin, je le souhaite pas à grand monde en tout cas. C'est au point, si vous voulez, que lorsque le médecin vous demande sur une échelle de 0 à 10... combien vous souffrez, vous lui hurlez à la figure 14, est-ce qu'on peut en finir? Et donc, dans cette expérience, bien sûr, quand vous êtes croyant, croyante, ce qui est mon cas, moi je suis catholique, je suis même une très bonne catholique, hein, pour tout vous dire. Mon confesseur n'est pas là, non, ça va. Donc, je vais vous dire à quel point je suis une bonne catholique, j'ai tout fait bien comme il faut, j'ai épousé quelqu'un qui à l'époque n'était pas croyant, il s'est converti en cours de route. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas grâce à moi, c'est mes enfants qui l'ont édifié. J'ai tout fait, j'ai choisi de travailler pour l'Église, donc... J'ai évangélisé, j'ai fait des tas de trucs très très bien, etc. Donc quand la maladie m'est tombée dessus, la question c'était quand même de se dire, mais enfin, il y a un petit côté un peu injuste, enfin, Seigneur, tu fais toutes choses parfaites et la grâce abonde et c'est super, mais enfin, pourquoi moi quand même? Zut quoi. Si tu veux des noms de gens à qui balancer des choses pas sympas, enfin, j'en ai, pas beaucoup, hein, mais j'en ai. Et donc voilà. Et la question de la foi dans la souffrance, quand tout se barre, quand tout s'en va, quand tout s'écroule, c'est quelque chose dont on nous parle finalement dans les livres édifiants, etc., mais auquel on n'est pas prêt, en fait. On n'est jamais prêt à ça. Et donc, ça a donné une traversée dans laquelle il n'y avait plus rien, si ce n'est ce petit collier de bois qui me venait de ma grand-mère, qui avait une spiritualité du chapelet, une spiritualité très mariale, qui, moi, ne me disait rien. C'est pas que j'étais pour ni contre, bien au contraire. Enfin, simplement, j'avais pas été élevée là-dedans. Et juste, comme je n'arrivais plus à prier, je n'arrivais plus à faire grand-chose. Hein, de toute façon, quand vous souffrez, vous n'arrivez à rien. Vous vous souvenez vaguement que les autres grands-parents me disaient... Mon grand-père avait une phrase quand on lui disait qu'on avait mal ci ou là. Enfin, vous savez, les petits bobos d'enfants, ils nous disaient en souriant, « Tu dis, mon Dieu, je vous l'offre. » Cette phrase me revenait quand j'avais mal et je me souviens que je me disais, mais bon sang, cher grand-père, si je t'avais sous la main, là, je t'éclaterais contre le mur. Parce que bien entendu, alors je sais pas, il y a peut-être des gens qui arrivent à offrir leur souffrance et vraiment, vous êtes extraordinaire. Mais moi, déjà, ne pas arriver à insulter la première personne qui rentre dans ma chambre et dont la seule existence est une agression... je me trouvais déjà héroïque. Et donc, ce petit collier de bois, en fait, a été mon ancre pour ne pas perdre complètement pied et ne pas, soyons très clairs, me jeter par la fenêtre. enfin, quand je dis me jeter par la fenêtre, on habite au rez-de-chaussée, donc c'est probablement pas le moyen que j'aurais employé, mais vous voyez l'idée. Et tout simplement parce qu'en fait, lorsque vous égrenez un chapelet, vous avez... Enfin, vous savez ce que c'est, quoi. Vous touchez la perle de bois et vous sentez quelque chose. Parce qu'il y a un moment, il y a un moment de la douleur, en fait, où... Alors, je ne sais pas si c'est la tonne de médicaments que vous prenez, ou, mais vous ne sentez plus les limites de votre corps tout en vous sentant encore la douleur. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous, mais il y a vraiment quelque chose de la dilution de soi qui est terrible. Et tout à coup, je sentais à nouveau quelque chose, une douleur différente, une douleur qui me rattachait à l'humanité. Et alors, évidemment, en égrenant, je ne priais rien du tout. Hein. Enfin, il n'y avait pas une seule phrase du « Je vous salue Marie » ou du « Notre Père » ou du « Gloria » qui me revenait. Mais il y avait l'intention de prier et je me suis dit « Bah, ma prière, ce sera ça. Ce sera simplement de faire ce geste. » Voilà. Et quand la douleur s'est un peu estompée, il y a les mots qui sont venus sur, sur ce que j'avais pu traverser avec le Christ, parce que le Christ, en fait, il était là, dans ces morceaux de bois. Et parce que le rosaire, si vous voulez, quand après j'ai lu quels étaient les mystères du rosaire, je me suis rendu compte qu'en fait, les choses sont bien faites quand même, tous ces mystères recouvrent l'ensemble de l'expérience humaine en matière de joie, de souffrance, de mort et de résurrection. Et voilà comment ce livre est né, comment je me suis dit que peut-être cette traversée pouvait accompagner d'autres gens dans leur propre traversée et peut-être créer des ponts dans cette souffrance qui est le lieu de la solitude absolue.
Je vais donc vous lire le prologue, parce que, en fait, le meilleur de...
Ok.
Le meilleur de Natalia, c'est ce qu'elle a produit face à ce qui la dépasse. Voilà. Et finalement, dans cette maladie... qui rend seule, elle a été chercher Dieu. Et c'est de cette relation que sont nés les poèmes. Et donc là, je vais vous lire le prologue de ce livre mystère. Dans un instant. Un soir de pâle figure, où le temps s'égouttait en bruissement d'épines, je vis un ange au gouffre de mon grabat, avec à la main droite un résidu de fiel. Ô ange, laisse-moi juste assez pour ma jambe, si c'est insuffisant que tu touches mon œil. C'est encore trop peu, Raphaël, par pitié, étends sur moi ta main et je m'endormirai. Miséricorde, dit l'ange. À l'éclat de sa voix d'outre-ciel, je fus emporté en l'ardant des vains mystères, et voici ce que j'ai vu. On commence par les mystères joyeux. L'Annonciation. Je ne vais pas tout vous lire, mais quand même quelques-uns. Il y eut un ange scellant l'Éden d'un glaive incandescent du chagrin du ciel, et Dieu bénit l'Adam d'une onction de ses larmes. Il y eut un ange frappant Jacob au finir d'une nuit infinie, et Dieu bénit Israël d'une béance. Il y eut un ange dans la fournaise, et la flamme a gémi sous Daniel, car la faveur de Dieu dévorait le feu même. Il y eut un ange sur le pas d'une porte, et Dieu qui mendiait ta bénédiction. Ô Marie, dès l'enfance abondée de tendresse, Les psaumes de ton peuple flûtés sans les comprendre, ciselaient ta mémoire novice. Et sous l'ombre attentive des anges, des perles de Torah tressées de tes louanges ébauchaient dans ton cœur le Magnificat. Et Dieu, à te regarder croître, désirait à son tour grandir auprès de toi. Et Dieu, à te savoir sienne, implora ta caresse pour le salut du monde. Dans un écrin de pur silence, brûlait l'ardent cœur de Marie, et l'ange reconnut l'empreinte de l'Horeb. Devant ton innocence, il s'est mis à genoux. Le murmure de ton oui a jailli de ta bouche, et dans la frondaison de l'arbre de Jessé, Dieu s'est fait corpuscule. Le Verbe, par lequel Dieu créa toutes choses, a manifesté sa gloire, espoir d'un Babil dans l'entraille d'une femme. D'une main étonnée, tu as touché ton ventre, et j'ai mis à tes pieds ma confiance inquiète, tout contre ta foi tranquille.
On a le... On a coutume de dire dans notre Église que nous sommes le lieu où les malades, les blessés, les souffrants, les plus petits sont accueillis. Et c'est vrai, nous sommes à Lourdes. Je suis toujours très touché quand je viens ici, à la messe, comme ce matin, mais c'est comme ça toujours. Tout le monde reste assis parce qu'on est vraiment à hauteur de malades. Ce sont les valides qui s'adaptent. Et ça, c'est quelque chose qui me bouleverse à chaque fois. Ce matin, à la messe, j'étais... une fois de plus, je n'étais pas à ma place. J'étais dans le carré, en fait, des personnes sourdes et malentendantes. Alors, ça, c'est un truc... Enfin voilà, j'ai plein d'autres problèmes, mais j'entends très bien. Et du coup, j'ai chanté avec les personnes sourdes en faisant les signes, puisqu'il y avait une personne qui les faisait, etc. Et j'ai trouvé ça absolument génial. C'était la première fois que je faisais ça. Et j'ai vécu la messe d'une façon absolument extraordinaire. Enfin, Lourdes, c'est ça, en fait. On fait des choses auxquelles on ne s'attend pas. On se rejoint, vous voyez ? Et en même temps, il y a parfois tellement de malentendus sur ce que c'est que la maladie, sur ce que c'est que la souffrance, sur ce que c'est que la guérison. Dans notre entourage, nous avons de la chance, souvent, il y a beaucoup de gens qui prient pour que nous soyons guéris. Et parfois, alors, soyons très clairs, hein. Moi, si je peux être débarrassé des tunnels de douleur, je dis oui tout de suite, évidemment. Cela dit, il y a parfois, j'ai la chance, j'ai beaucoup d'amis, donc beaucoup d'amis qui prient pour moi, il y a parfois une insistance sur la guérison qui m'attriste un tout petit peu. Je vais essayer de me faire comprendre sans blesser personne. Des fois, je me demande si je ne suis pas un petit peu gênante en étant malade. Et ça m'est arrivé de dire « Mais pourquoi tu veux à ce point que je guérisse ? Ça t'embête de venir me voir ? Ça t'embête d'être... » Enfin, voilà. Il y a une phrase dans l'Évangile. Alors, je vous ai déjà dit que les chiffres et moi, ce n'était pas la peine, hein, donc vous... Il y a sûrement des prêtres pas loin, vous leur demanderez les références, comme ça vous vérifierez qu'ils sont doués. Dans l'Évangile, vous avez cette phrase de Jésus à qui on demande « Mais cet aveugle, pourquoi est-ce qu'il est aveugle ? Pourquoi ?» etc. Et Jésus a cette réponse étonnante. En fait, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Moi, j'imagine toujours la tête, je crois que c'est dans Matthieu, hein. J'imagine toujours la tête de Matthieu qui dit « Il a vraiment dit ça ? Vous êtes sûr ? Je le note ? On est d'accord ?» Ok, je le note, mais on relit quand même. Hein. Bon, c'est quand même très étrange comme réponse, parce que pourquoi est-ce que la gloire de Dieu se manifesterait comme ça? Et en fait, j'ai fini par comprendre, enfin, c'est ma compréhension, ça n'engage que moi, hein, on comprend ça à la lumière de Jésus ressuscité, qui revient avec ce corps glorieux qui, de prime abord, n'a rien de glorieux, parce que le corps de Jésus ressuscité, il nous est décrit dans l'Évangile. Et on nous décrit quoi? On nous décrit un type qui fait toucher toutes ses cicatrices béantes à ses amis. Mets ta main dans mon côté, mets les doigts dans les marques des clous, etc. Enfin, c'est ça le corps glorieux, c'est pas terrible. Et en fait, c'est à la lumière de ce corps glorieux qu'on peut se rendre compte finalement que nous sommes, nous les blessés, les malades, les personnes handicapées, etc., parce que Jésus est passé par la croix, par la mort, par la résurrection, et qu'il a assumé toutes nos blessures, tous nos handicaps, toutes nos maladies, nous sommes comme une préfiguration du corps glorieux. Et moi, je trouve ça extrêmement fort. Parce que, en fait, le corps saint, S-A-I-N, que j'ai eu à un moment donné, que vous avez eu, etc., ce corps-là, moi je me souviens, c'est un corps, j'allais dire, qui est inconscient de son potentiel de vie éternelle. Mon corps tel qu'il est aujourd'hui, il gémit, il soupire après la vie éternelle. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi il est amoindri. Lui, il se souvient très bien finalement qu'il était fait pour la vie et pour la vie en abondance. Et comme il est amoindri, attaqué, etc., il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Il y a quelque chose en fait dans la maladie qui est fascinant. Vous voyez par exemple, pour prendre le train pour Lourdes, je calcule toujours, enfin pour prendre le train en général, je calcule toujours le temps qu'il me faut pour aller à la gare. Ça fait 8 ans quand même que je suis malade et que je marche en mettant minimum 2 fois plus de temps qu'autrefois. Ça fait 8 ans que je calcule toujours le temps qu'il me faut pour aller à la gare comme lorsque j'étais valide. Mon corps refuse d'accepter qu'il lui faut 2 fois plus de temps. C'est absolument fascinant. Il y a des tas de choses comme ça. Quand je me lève le matin, parfois, j'oublie complètement que si je pose le mauvais pied par terre, je me casse la figure. Ça ne m'empêche pas de me casser la figure régulièrement. Vous voyez, il y a vraiment une mémoire du corps qui oublie qu'il est malade, tout simplement parce que le corps n'est pas fait pour la maladie. Il n'a pas été créé pour ça. La maladie, la mort, etc., tout ça, c'est des accidents de parcours, en fait. C'est des effets du péché originel. Et Dieu ne nous a pas créés pour ça, il nous a créés pour la vie. Et le corps s'en souvient. Et ça, je crois que c'est l'expérience la plus forte de la maladie. C'est de nous rappeler à chaque pas, non pas comment on était avant, mais à quoi on est appelé. Vous voyez? Alors, on arrive quasiment à la fin du
cours.
Peut-être lire
un petit poème.
Je vais le faire. Alors.
Tu sais ce que tu veux?
Non.
Ascension.
Le poème que je vais vous lire, c'est le poème sur le mystère de la transfiguration qui raconte un peu ça. À l'orée du mont Tabor, l'ange m'a déposé. Ô mon ange, regarde ma carogne, elle pèse si lourd. La montagne où Jésus se montre en son essence, je ne puis la gravir, elle est si escarpée. Alors, l'ange me prit, et voici, j'étais au sommet. Jésus se tenait là, la tunique rougie au caillou du sentier. Et Pierre et Jacques et Jean le contemplaient en gloire, et je ne voyais rien. Ô mon ange, où est donc la majesté du Fils ? Mon œil est-il rendu aveugle à sa splendeur ? Le salaire est cruel, qui intime à l'infirme, regarde ce qu'il voit. Oh, je voudrais si fort saisir ta gloire, Seigneur. L'ange restait immobile. Il semblait à ses lèvres que jaillissait aussi la louange muette. Alors, j'ai ramassé ma béquille tangible et j'ai vu le sentier qui plonge en Jézabel jusqu'à la vallée de Megiddo. J'ai entrepris la descente injuste et je ne sais ce qui de mes péchés amers ou de la terre collée rendait mon pas si lourd. Au bout de 200 pas, ma béquille a fendu sous mon pied divagué. Regarde ce qui pèse, souffla l'ange. Alors j'ai délesté mon âme de tant de pleurs, les lames cisaillantes de la jamais perdue, le sanglot tailladant du fini pour toujours, le deuil du corps Judas, taraudé de trahir et se détruire sans fin. Et j'ai repris ma route. Au bout de 500 pas, ma béquille a rompu. Regarde encore, dit l'ange. Alors j'ai retourné la doublure de mon âme et j'ai vidé au sol ce que les trous à mon cœur blêche avaient glissé dans l'oubli, entrailles et bas morceaux. Ce désir crucifiant parmi d'autres babioles. Mon lien ombilical s'y tenait encore vif. Je l'ai pris et avec j'ai noué ma béquille et j'ai boité encore pendant 1000 pas. Et la plaine survint comme un verre d'eau pure. Ô ange, porte-moi jusqu'au prochain mystère. Vois mon pas émietter la blessure à mon crâne. L'ange avait disparu. Mais Jésus était là. Et Moïse et Élie. Et sans rien qui les désigne, je les ai reconnus dans l'éblouissement. Et nous nous sommes vus tels que nous subsistions. Merci à vous.
Tiens, un peu de plaine. Avez-vous des questions ?
Je suis complètement bluffée parce que vous avez dit sur le chapelet, oui. Au moment où vous aviez vos douleurs,
oui.
Parce que mon mari qui est atteint de la maladie de Charcot,
oui.
S'est complètement réfugié dans le chapelet depuis qu'il a eu besoin de, comme vous l'avez dit, d'humanité, c'est ça ? Mmh. Et c'est vrai que quand je le vois égrainé, c'est tout à fait ce que vous avez vécu et j'ai trouvé ça complètement incroyable.
Merci.
Pas une question.
Oui, mais merci. Ne me dites pas qu'on vous a endormi. Hein.
On peut peut-être lire autre chose. Hein.
Moi, je voudrais vous poser une question à tous les deux.
Oui.
C'est-à-dire, comment est-ce que vous qui avez les mots et François-Xavier qui a le crayon ou le fusain ou que sais-je, vous avez trouvé ce langage commun. On sent que l'image est très proche
oui.
de ce que vous
raconte.
Vous écrivez.
Alors,
Je ne sais pas si on a un langage commun. Je pense qu'on n'a pas de langage commun. En revanche, la source est la même. C'est pour ça que j'ai accepté que l'inspiration, que les intuitions ne viennent pas de moi, mais de Natalia. D'habitude, je travaille tout seul. Je fais vraiment un travail de solitaire, voilà, de peintre. Et là, en fait, voilà une amie qui me propose de bosser avec elle. Et moi, je me dis, chouette, c'est bien, c'est un beau travail, etc. Mais en fait, je me suis aperçu que l'amitié était une chose, mais que ce n'était pas ça. Le sujet, ce n'était pas ça. En fait, il y a quelques années, Natalia m'a invité à participer à l'équipe de communication du rosaire, du pèlerinage du rosaire. Et en fait, ça m'a permis de faire un vrai pèlerinage. J'étais aux piscines, etc. Et ça a été vraiment un moment, des moments vraiment importants pour moi. Et j'ai accepté qu'elle me prenne la main, qu'elle me guide quelque part pour venir ici. Et en fait, ce livre, c'est exactement la même chose. Je pensais que c'était par amitié, et en fait, c'était un pèlerinage qu'elle me proposait. Voilà, donc je suis parti comme ça en pèlerinage, et on s'est répondu parce que on a rencontré la même personne. Le rosaire, ça sert à rencontrer Jésus par Marie. Ça sert à rencontrer la personne du Seigneur et à déposer son fardeau. Et cette rencontre, je l'avais faite aussi. Donc, c'est de ça que naît la culture, la vie avec Dieu, crée de la culture aussi, quoi. Pas que du témoignage, mais aussi une forme, une véritable forme, parce que l'idée de l'art, c'est donner une forme à l'émerveillement qu'on a reçu. On a su qu'on était en présence d'un Dieu qui nous aime, et on veut le dire. Alors ça passe par des choses invisibles, donc il faut en faire quelque chose. Alors il faut trouver une forme qui permette de le suggérer, voilà. Donc moi je travaille avec la lumière, par exemple. Et donc on peut travailler ensemble. Natalia me donnait un poème par jour, en gros. Et je lui répondais dans la même journée. Ça m'occupait, c'était bien, mais on était à 500 km de distance. Mais je lui faisais deux, trois propositions de dessin, et voilà, c'était vivant, c'était très vivant. Et c'était simple, parce que c'était vraiment la même personne qu'on a rencontrée. Donc, voilà, c'était une expérience assez merveilleuse. Même, disons, j'ai vu sa fulgurance, j'ai vu la justesse de ce qu'elle racontait, elle, justement, était si faible, elle arrivait à ce que ça coule d'elle, à ce que ça soit rendu simple. Voilà. Et pour une journaliste, elle ne pouvait pas faire de reportage sur elle-même. Donc elle est passée par Dieu pour ne pas parler d'elle, mais de la relation que Dieu a eue avec elle. Et comment, par exemple, effectivement, Elle réussit à voir Dieu dans le poème qu'elle vient lire, parce que elle est libérée de tout ce qu'elle portait, une grande partie de ce qu'elle portait. Ça lui fait mal, mais elle a quelque chose, un trésor à nous montrer.
Merci.
Je vous en prie.
Vous pouvez nous en lire un petit dernier.
Allez.
Celui-là ?
Il est pas mal celui-là. Tiens. Moi, tu peux.
Alors celui-ci, c'est l'ascension. Ce qui me frappe, en fait, dans le récit de l'ascension, c'est l'ange, toujours. Moi, j'adore les anges, hein. Vous l'aurez peut-être remarqué.
T'adores aussi.
qui regarde les disciples qui restent là, comme ça, et qui leur dit, mais pourquoi vous regardez le ciel ? C'est vraiment, enfin voilà, c'est le verset qui me touche et c'est de là que je suis parti. Abaisse un peu ta nuque et déplisse tes yeux. Que le soleil lointain n'écrase plus ta faiblesse. Il est fini le temps où tu scrutais le ciel pour y mendier Dieu. Remets-toi sur tes jambes et marche, même oblique, car tes pas glorifient la terre et le sentier. Et si tes yeux se lèvent, que ce soit pour bénir ce que Dieu a créé, que ce soit pour aimer le semblable inconnu qui s'invite sans gêne au détour d'Emmaüs. Avec ton corps blessé, sanglotant son désir de la résurrection, ton cœur qui a besoin du sang d'autre pour battre, ta jambe qui jamais ne s'élève du sol comme pour désigner la destinée commune aux valides amnésiques, bénis la chair complexe et pauvre que Dieu a exaltée. Laisse tes plaies visibles, et si quelqu'un s'effraie, c'est alors ton prochain. Et dans le lent travail de sape qui te ronge, contemple la beauté de la gloire qui vient. Tout ce qui est creusé a même la chair vive, et que Dieu vient combler de ciel impérissable. On se rend dédicace à la librairie à 18h, demain et après-demain. Et, ouais.
Et moi qui ne sais pas écrire, je ferai des dessins. Voilà.